Là maintenant, nous allons nous intéresser à l'action du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui croient en Jésus. Pourquoi de ceux qui croient en Jésus spécifiquement? Vous savez, tout à l'heure, on a dit qu'une des missions du Saint-Esprit, c'était de convaincre le monde de péché. Mais la Bible nous montre que lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en Éphésiens 1.13. Et ça veut dire qu'il y a une action spécifique du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui croient en Jésus. Et là, nous allons voir quatre de ces actions que le Saint-Esprit dans nos vies, dans la vie de ceux qui croient en Jésus, est de nous relier à Dieu, de nous conduire, de nous transformer et aussi de nous équiper. Et avant de nous intéresser à l'action du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui croient en Jésus, alors il nous faut, tout à l'heure on a une discussion un petit peu informelle, on en a un petit peu parlé, il faut préciser que le Saint-Esprit respecte notre liberté, notre libre arbitre. Voilà, le Saint-Esprit est tout puissant et il pourrait, très bien, je veux dire, rien n'est impossible à Dieu, il pourrait nous transformer quelque part en robot, en machine. Mais ce n'est pas du tout ce que souhaite Dieu. L'intention de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre en communion avec lui. C'est-à-dire que en relation, en intimité avec lui. C'est lui qui vient à nous, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Il vient à nous, mais c'est à nous de l'accueillir. Il nous révèle quelle est sa volonté, mais c'est à nous de la suivre. Il nous parle, il nous encourage, il nous aide, mais c'est aussi à nous d'aller dans la direction dans laquelle Dieu nous incite à avancer pour notre bien. Donc l'action du Saint-Esprit ne se fait pas malgré nous, mais avec nous. Le Saint-Esprit est tout-puissant, mais c'est comme si dans notre vie, Dieu faisait le choix de ne pas agir sans notre coopération. Il est possible même d'avoir reçu le Saint-Esprit et pourtant de nous opposer à l'action de l'Esprit dans notre vie. C'est ce que dit 1 Corinthiens 3.1 que je n'ai pas mis sur votre feuille. C'est une lettre que Paul adresse aux chrétiens de l'église de Corinthe, qui était une église pas facile, on va dire, avec des gens qui avaient une foi sincère, mais qui partaient dans tous les sens. Et voilà ce que Paul leur écrit. « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. » Parce que ces personnes, Paul ne dit pas que ces personnes n'avaient pas reçu l'Esprit, mais simplement, elles n'avaient pas accepté de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu, mais avaient plutôt choisi de faire ce qu'elles avaient envie de faire. Et du coup, elles restaient comme de petits enfants. Elles avaient besoin de grandir et Paul ne pouvait pas leur dire toutes les choses qu'il aurait pu leur dire. En tout cas, s'ils avaient davantage progressé dans leur communion avec Dieu. Pour nous, les quatre actions du Saint-Esprit donc, que nous allons voir, nous relier, nous conduire, nous transformer, nous équiper. Donc gardons à l'esprit que tout ce qui va être dit maintenant, tout ce que je vais dire maintenant, implique la coopération de ceux en qui cet esprit agit. En venant habiter dans celui qui croit en Jésus, le Saint-Esprit déjà nous relie à Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure, hein, c'est un lien solide, définitif. Et cela nous permet de rentrer en relation personnelle avec Dieu. En tant qu'individu, nous pouvons rentrer en relation avec Dieu. Éphésiens 2.18, à travers Jésus, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Les uns les autres, c'est-à-dire que personne n'est exclu a priori. Et puis là, il y a un accès direct. C'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir une relation directe avec Dieu. Pas besoin d'intermédiaire. Parfois, les hommes, souvent pour des questions de pouvoir, hein, ont cherché à mettre en place des espèces de systèmes, un système pyramidal où, pour pouvoir s'approcher de Dieu, il fallait passer par un intermédiaire et puis un autre, etc. Et bien la Bible nous dit donc, nous avons accès les uns les autres auprès du Père par le Saint-Esprit. Nous pouvons connaître une relation personnelle avec Dieu, Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, c'était le mot araméen, la langue parlée par Jésus, pour dire « Père ». Combien d'hommes et de femmes sont dans la crainte, plutôt dans la terreur de Dieu? C'est probablement juste d'avoir ce souci de ne pas déplaire à Dieu, le souci de l'honorer dans nos vies. Mais parfois, des gens font des tas de choses dans leur vie par crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ils ne font pas les choses pour Dieu ou par amour pour Dieu, ils finissent par les faire parce qu'ils ont peur de Dieu. Vous savez, comme des fois nos enfants, on veut tellement qu'ils fassent ce qu'on a envie, ce qu'on pense qu'ils devraient faire, c'est quand on met de la pression, des fois on utilise la peur. Puis des fois on est content parce que, eh bien, ils ont fait ce qu'on a voulu. Sauf qu'en réalité, ça n'a rien changé, parce que s'ils font ça, c'est pas parce qu'ils ont compris que telle chose était bonne ou pas. Ils ont compris que c'était leur intérêt de le faire, parce que sinon notre colère allait s'abattre sur eux. Eh bien, malheureusement, parfois, des gens sont dans cette terreur de Dieu, et c'est pas une bonne chose, parce que on ne fait pas les choses pour Dieu dans ces cas-là, mais simplement parce qu'on a peur. Eh bien, ce qui est formidable, et c'est l'espérance qui nous est offerte en Jésus-Christ, c'est que, puisqu'il a payé pour nos fautes complètement, eh bien c'est que, par l'esprit qui est en nous, on n'est plus dans cet esprit d'esclavage, de cette peur qui nous contraint avec Dieu, mais on rentre dans une relation nouvelle. Il est écrit là un esprit d'adoption, c'est-à-dire que on est conscient de cette appartenance à Dieu, et Dieu, on peut le connaître comme un père. Et ça, c'est une relation vraiment différente, qui est possible grâce au Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est libérateur dans notre vie, parce que des fois, on continue à conserver ça pendant longtemps, et quand on réalise que nous pouvons vivre par amour pour Dieu, et non plus par la terreur de Dieu, ça, c'est quelque chose qui transforme notre vie, et même notre relation avec Dieu. Et Dieu peut nous faire peur, il a beaucoup de moyens. Il pourrait nous terroriser, mais ce n'est pas le choix qu'il a fait. Dieu nous appelle par l'amour. Et moi, des choses qui m'étonnent toujours, c'est que Dieu m'ait dit à l'avance que non seulement il m'aimait, mais que mes péchés étaient pardonnés. Mes péchés passés, j'arrive encore à le concevoir, mais même mes péchés futurs. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Si on veut que quelqu'un se mette à aller dans le bon sens, on ne va pas lui dire, mais écoute, fais ceci, mais de toute façon, si tu ne fais pas du tout ça, ça ne changera rien à mon amour pour toi. On aurait peur de dire ça, parce qu'on aurait peur que la personne fasse n'importe quoi. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous dit. Parce que le projet de Dieu pour nous, c'est de rentrer dans une relation personnelle avec nous et d'être libéré de cette terreur de Dieu pour connaître l'amour de Dieu. Donc, première action de l'Esprit de Dieu, c'est de nous permettre de rentrer dans cette relation personnelle avec Dieu, mais également une relation communautaire avec Dieu. Et ça, on y pense peut-être moins souvent, parce que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'elle nous incorpore au peuple de Dieu, à ce que la Bible appelle le corps du Seigneur, ou l'Église. Donc c'est là, tout à l'heure, on parlait de l'Église en tant qu'institution, mais dans la Bible, l'Église n'est jamais une institution, c'est le groupe de ceux qui, par la foi, appartiennent au Seigneur. 1 Corinthiens 12, 13, « Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu un seul esprit. » Alors, le mot baptisé, souvent maintenant on pense à un acte, c'est un mot courant à l'époque, un baptisé ça veut dire immerger, plonger. Nous avons tous été plongés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est pas ça qu'il est en train de nous dire, mais peut-être que sur le plan des hommes, il y a des distinctions. Voilà, on met d'un côté ceux qui viennent de tel et tel milieu. Eh bien, c'est pas comme ça. Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, lorsque notre foi nous rattache à Dieu, nous faisons partie du même corps. Nous appartenons d'un seul coup au même peuple. Et par cette réception, ce baptême dans l'esprit, nous étions avant ennemis de Dieu. Nous devenons incorporés au peuple de Dieu. Nous avons un seul et même esprit, et ça c'est quelque chose qui transforme véritablement aussi les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Parce que ça signifie que les gens que nous côtoyons, nos frères et sœurs en Christ, animés par le même esprit, eh bien ça nous facilite les choses pour nous comprendre. Ça veut dire qu'on a le même amour pour Dieu, on a les mêmes préoccupations de suivre Dieu. Nous pouvons mutuellement donc, nous comprendre, nous soutenir, nous compléter et même faire des actions communes. Et malheureusement, des fois, bien des tentatives humaines de faire des choses au nom de Dieu au sens large incorporent toutes sortes de personnes et des fois des gens pour qui la religion est plus une philosophie qu'autre chose et souvent ça ne va pas bien loin. Parce qu'en fait, les motivations ne sont pas les mêmes. Mais lorsque des gens qui appartiennent au Seigneur se retrouvent. Moi, je suis extrêmement surpris de voir que si demain nous partons en vacances, je peux aller dans n'importe quelle église, je sais que je serai accueilli. Nous sommes arrivés dans la région, nous ne connaissions personne. On est venu dans une église en l'espace de quelques heures, quelques minutes. On avait des amis, nos enfants avaient des grands-parents de substitution, nous avons été accueillis, soutenus, aidés, et on s'est tout de suite sentis en communion avec eux. Pourquoi ? Parce que nous étions chacun en communion avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Donc, une des actions du Saint-Esprit, c'est également de nous permettre de rentrer en relation avec d'autres personnes qui ont la même foi que nous. Le Saint-Esprit également nous conduit afin de nous aider à connaître et à suivre Dieu. Alors, cette action de l'Esprit nous permet de mieux connaître Dieu, de manière à mieux connaître sa volonté et ainsi de nous permettre de mieux le suivre. Parce que c'est formidable de vouloir suivre quelqu'un, mais si on ne connaît rien de lui. Eh bien, le but de l'Esprit de Dieu qui est en nous est de nous permettre d'apprendre à mieux connaître Dieu. Alors, on a vu il y a quelque temps que ça se faisait par la parole de Dieu. Grâce au Saint-Esprit, des fois, des textes se mettent à nous parler. Nous comprenons ce que Dieu veut nous dire. Ou si nous l'avions compris ici, ça descend profondément en nous pour que nous puissions nous appuyer dessus. Et puis aussi, bien sûr, le Saint-Esprit nous conduit également par le biais de la prière. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit tout seul, mais c'est le Saint-Esprit en relation ou en appui avec la parole de Dieu, avec la prière par laquelle nous sommes en relation avec Dieu, que le Saint-Esprit nous conduit. Jean 16, 13, que nous avons déjà vu tout à l'heure, quand le défenseur, il est question ici du Saint-Esprit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lorsque nous rentrons en relation avec Dieu, Dieu ne nous laisse pas seuls pour nous débrouiller sans repère, sans guide dans notre vie. Mais par le Saint-Esprit, il nous conduit dans la vérité. Il nous conduit, mais également, par son action dans nos vies, le Saint-Esprit cherche à nous transformer intérieurement, afin que nous puissions de plus en plus ressembler à Jésus. Alors, ressembler à Jésus, concrètement, dans nos pensées, que nos pensées se mettent à de plus en plus à ressembler aux pensées de Jésus. Là où avant nous voyons quelqu'un de méprisable, nous nous mettons à en voyant cette personne et réaliser que c'est un être humain créé en image de Dieu qui a des besoins particuliers, qui a une sensibilité particulière. Voilà, nos pensées peuvent changer, nos sentiments également. Peut-être avant, la peur se transforme en paix, la colère en joie ou différentes choses. Et nos actions aussi. Nous avons besoin d'être transformés dans nos actions. Parce que nous ne faisons pas, en tout cas moi c'est mon cas, je suis encore loin de tout faire bien. Eh bien, le travail du Saint-Esprit en nous, c'est de petit à petit nous transformer pour que nous puissions de plus en plus faire ce que Jésus aurait fait à notre place. Je pense que c'est souvent une bonne question. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire. Puis des fois, nous dire, mais avec ce que je connais de Jésus, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et dans bien des cas, eh bien, ça nous aide. Et la manière par laquelle le Saint-Esprit nous transforme, c'est en faisant grandir en nous le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et puis par d'autres textes, on voit que ce fruit, ce n'est pas exhaustif, il y a encore d'autres choses. C'est-à-dire que ce fruit de l'Esprit est amené à grandir, et c'est là où on se rend compte qu'on a fait du chemin avec Dieu, lorsqu'il le fruit de l'Esprit est là, indépendamment des circonstances. Nous sommes en paix, non pas parce que nous avons une vie paisible, mais parce que Dieu nous donne sa paix dans la situation que nous traversons, par exemple. Alors que nous sommes dans un environnement haineux, moi, lorsqu'on ne m'aime pas, naturellement, j'ai tendance à ne pas aimer ceux qui ne m'aiment pas. Eh bien, le fruit de l'esprit, parfois, c'est de pouvoir aimer même ceux qui ne sont pas aimables avec nous ou qui ne sont pas aimants. La joie, même dans les difficultés. La paix, je disais tout à l'heure, même dans la tourmente. Mais rappelons-nous que l'Esprit de Dieu agit en nous, mais pas sans notre coopération. Et par exemple, un des fruits de l'Esprit, c'est la bienveillance. Et des fois, on constate qu'on n'est pas bienveillant et on pourrait dire, je veux la bienveillance, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit pour que je sois bienveillant. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que cet Esprit de Dieu, il est déjà en nous. Et le travail du Saint-Esprit, c'est qu'effectivement, Dieu nous dit, on connaît sa volonté, qu'on doit être bienveillant. Mais le travail du Saint-Esprit, c'est de nous préparer à ça. Et peut-être déjà en décidant d'être bienveillant, en nous préparant d'être bienveillant. Moi, je sais qu'il y a certaines circonstances où, si je ne me prépare pas à être bienveillant, je vais exploser. Parce que on va me titiller, on va me piquer. Et moi, je suis assez chatouilleux de nature. Et bien, n'empêche, c'est pas simplement que les choses arrivent toutes cuites, c'est que on va aider, ce fruit va se développer en nous, aussi en comptant sur nous, en nous préparant ça, en priant pour ça, mais également en réfléchissant comment je vais pouvoir concrètement manifester de la bienveillance envers telle et telle personne. Ça, c'est le fruit de l'esprit, la patience, par exemple. Comment se développe la patience? Alors, essayez de vous imaginer quand vous étiez tout petit, quand on vous donne tout de suite. C'est l'habitude, c'est le mode de fonctionnement dans votre famille, vous voulez quelque chose, vous l'avez. Vous grandissez, est-ce qu'à l'âge adulte, vous êtes patient? Ah non, hein, parce que vous n'avez jamais appris ça. Comment se développe la patience? Dans l'attente, voilà. C'est quelque chose qui se développe, c'est un fruit qui se développe au fur et à mesure de notre relation avec Dieu. Et le fruit de l'esprit est quelque chose qui ne doit pas être confondu avec le don de l'esprit dont nous allons parler tout à l'heure, enfin dans quelques secondes. Tout chrétien, quel qu'il soit, s'il se laisse conduire par l'esprit de Dieu, s'il fait ce choix de coopérer avec l'esprit de Dieu, doit développer en lui le fruit de l'esprit. C'est la conséquence de sa relation, de son attachement avec Dieu. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui va se développer dans le temps. Si aucun fruit ne se développe, c'est quelque chose qui doit des fois interpeller. Ça ne veut pas dire que les choses arrivent toutes prêtes, mais si on rencontre quelqu'un, chrétien, qu'on le rencontre 20 ans plus tard, on peut espérer qu'au cours de ces 20 années, il a de plus en plus, il ressemble à Jésus et non pas l'inverse. Ce fruit se développe avec le temps si nous coopérons avec lui. Voilà, mais des fois, ça prend du temps parce qu'on ne part pas tous du même endroit. On n'a pas tous le même vécu. Il y a des choses, des fois, des blessures tellement profondes ou des modes de fonctionnement tellement ancrés profondément en nous qu'il faut parfois longtemps pour que Dieu puisse nous libérer de cela, nous guérir de cela. Donc l'idée, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est même pas de se comparer les uns avec les autres, mais c'est de se dire, mais à partir du moment où nous avons reçu l'Esprit de Dieu, cet Esprit va travailler en nous, si nous coopérons avec lui, il va porter du fruit. Et ce fruit, c'est un bon fruit, c'est ça qui est formidable. Et c'est pas qu'il ne va pas nous faire devenir quelqu'un d'autre, en réalité, va nous permettre enfin d'être ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Parce que des fois, on a l'impression que Dieu veut nous changer en quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible. La Bible présente que le péché en nous est quelque chose qui est venu se rajouter à notre nature. Nous avons été créés en image de Dieu, mais parfois, à cause du péché, cette image a été déformée, altérée. On a des blessures, on a des pollutions. Et petit à petit, Dieu nous libère de ça. Et plus nous avançons avec Dieu, plus on je pense, le côté de l'épanouissement spirituel, c'est qu'on finit par enfin se mettre à vivre. Là, on avait l'impression parfois que on n'était même pas d'accord avec nous-mêmes, on ne s'appréciait pas, on était attristé par nous-mêmes. Et le travail du fruit de l'esprit, c'est de nous restaurer notre véritable nature d'homme et de femme créés en image de Dieu. Pas de faire de nous quelqu'un d'autre, mais de nous permettre d'être enfin l'homme et la femme que Dieu a créé. Donc le fruit de l'esprit est le travail de l'esprit en nous, mais il y a également le don de l'esprit. Alors le don de l'esprit, c'est lorsque Dieu nous équipe afin de mieux le servir, lui, ou de servir notre prochain. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7, nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. » Voilà. Les dons dont il est question ici sont des capacités, des compétences ou des fonctions particulières et variées. Il y a diversité de dons. Ça veut dire aussi que tout le monde n'a pas reçu tout cela, mais au moins, chacun a reçu au moins un don. À chacun, pas à quelques-uns, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Et ces dons ont été accordés dans un but bien précis, pour le bien de tous. Voilà. Dieu prend soin de nous. Lorsqu'il nous sauve, il nous incorpore à son corps, à une communauté, à l'Église, peut-être que la Bible l'entend. Et ça veut dire qu'il va prendre soin de l'ensemble de ce groupe en accordant divers dons aux uns et aux autres. Et grâce à ces dons variés et complémentaires, il prend soin de nous de manière collective. Voilà, nos besoins sont satisfaits des fois, pas parce que nous on a des compétences particulières, mais on a la chance de pouvoir bénéficier de quelqu'un qui a un don particulier et qui met ça au service des autres. Voici quelques exemples de dons et la liste n'est pas exhaustive. Parmi les capacités particulières, il peut y avoir une parole de sagesse. Des fois, ça nous fait du bien. Des fois, je me rends compte, il y a certaines personnes, alors moi j'ai tendance à rendre tout compliqué, et puis des fois, il y a des personnes, en deux mots, on se dit, mais oui, c'est simple en fait. Parole de sagesse, quelqu'un qui a pu percevoir la complexité d'une situation, mais qui a pu donner la bonne parole, qui permet d'y voir un peu plus clair. Une parole de connaissance, d'enseignement, la foi, des dons de guérison, de prophétie, donc d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu, de discernement. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon? La capacité de parler d'autres langues ou de les interpréter. La miséricorde. Nous devons tous être des gens qui prenons soin des autres, mais il y a parfois des gens qui ont vraiment encore cette capacité de manière, mais ça vous donne envie, quoi, dans laquelle on en bénéficie également. La musique. Être habile également de ses mains, ça c'est très précieux. Il y a des gens très habiles, des gens qui le sont moins. Moi par exemple, ça ne fait pas partie des dons que la Bible mentionne, mais je pense que par le dessin, on peut faire des tas de choses. Moi je dessine comme je dessine à peu près à l'âge de 4 ou 5 ans. Et je suis admiratif parce qu'une de mes filles, à l'âge de 5 ans, elle dessinait bien mieux que moi et a l'impression que tout lui réussit. Le dessin, le bricolage. On lui donne un bout de tissu, des ciseaux, et c'est un vrai don, ça. Il y a également parmi les dons des fonctions particulières, des pasteurs, enseignants ou serviteurs, qu'on appelle diacres dans la Bible. Voilà. Et ces dons que reçoivent tous ceux qui en font Jésus ne sont que des aides puissantes, lorsqu'on appuie sur Dieu, que Dieu dans son amour nous accorde, c'est lui qui nous accorde, pour le bien des autres, de ceux que nous côtoyons. Mais là aussi, hein, c'est bien d'avoir un don, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce don ? C'est pas du tout cuit. Lorsque le Seigneur nous accorde un don, il nous faut d'essayer de nous appuyer dessus. Par exemple, on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui a le don de la musique. Oui, mais un don, ça s'exerce. Et si cette personne n'exerce pas son don, ce don ne va pas se développer. Moi, je pense aussi, un de nos enfants, je pense, avait de très, très grandes facilités au niveau musical. Il ne travaillait jamais, il jouait du violon. Et c'était très facile pour lui. Je pense qu'il a ce don, mais il n'a pas le travail. Et mon épouse s'est épuisée à essayer de lui faire développer ça, et c'est quelque chose qu'il va perdre. Et pourtant, je pense qu'il avait vraiment, par rapport à d'autres, des facilités. Mais les dons que Dieu nous accorde, il nous faut les exercer. Et ça veut dire aussi que l'endroit dans lequel nous nous retrouvons doit nous permettre d'exercer cela. Des fois, il y a des milieux qui permettent plus ça que d'autres. Quelqu'un peut avoir un don, mais les dons au début, on est un peu maladroit, mais c'est quelque chose qui s'exerce. Et plus on exerce un don, plus on a ce don devient précieux, parce que plus on arrive, en fait, lorsque quelqu'un est doué dans quelque chose, c'est formidable ce qu'il arrive à faire. Mais également, exercer un don, c'est une chose, mais il nous est rappelé que ce don doit être exercé pour le bien de tous. Malheureusement, des fois, des gens ont reçu des dons particuliers, mais vont utiliser ces dons pour leur propre gloire, leur propre service. Et ça, on peut dire que dans ces cas-là, ils reçoivent le don, ils ont reçu le don du Seigneur, mais par manque d'attachement au Seigneur, ils ne vont pas aller dans le sens de ce que Dieu les pousse. Tout à l'heure, je parlais de l'église de Corinthe. Hein, si vous vous mettez à lire le Nouveau Testament, l'église de Corinthe, vous voyez que c'était vraiment un endroit où Dieu a réellement béni cette communauté par toutes sortes de dons. Mais ils n'en ont pas fait un bon usage, en tout cas au départ. Les dons que Dieu nous accorde doivent à la fois être exercés, mais avec cette bonne motivation qui implique de notre part ce désir de rester attaché à Dieu. Ce désir de servir. Voilà, comme nous, on vient de le voir rapidement, hein, mais l'action du Saint-Esprit dans nos vies, grâce à cela, Dieu nous donne, par son esprit, de recevoir, il nous faut le recevoir, ce don. Donc ça, c'est ce que Dieu fait. Mais il nous faut aller dans le sens où Dieu nous pousse, au travers de tous ces dons. Mais pas simplement faire une croix dessus ou partir dans la mauvaise direction, mais aller dans le sens où l'Esprit de Dieu nous pousse. Et c'est également à nous aussi de développer cela. C'est comme ça que Dieu prend soin de nous, grâce au don du Saint-Esprit.